monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Quand en des frontières, le commerce mondialise, que sous sa bannière, toutes les nations agonisent, quand pour seule culture, c'est le règne de l'argent, que sans fioriture, on vit rationnellement. Dans ce monde épanoui, libéral son parti pris, où l'argent nous réunit, moi je me dis. Tout le monde il est beau, le commerce réjouit.
Dans cette émission, nous allons poursuivre le débat autour de la responsabilité des transnationales en nous basant sur une série d'articles parus entre 2018 et 2019 dans différents journaux suisses romands recueillis par Alliance Sud. Trois copains se rencontrent et discutent de ces articles qui soulèvent un certain nombre de questions abordées fréquemment dans les discussions autour du lancement de l'initiative.
Salut!
Hey, ciao Patrick!
Bonjour!
Ouais, ça va pas mal. Salut, ouais. Ciao Jean-Luc!
Salut Jean-Luc!
Bonjour!
Alors, vous avez trouvé des trucs sur ce fameux volet multinational
créatif qui crée pas mal de débats et de polémiques ces derniers
temps. Ouais, c'est ça. Et puis bon, moi je sais que c'est touffu, enfin voilà, mais on avait pas mal de choses. Est-ce que vous avez trouvé des choses intéressantes?
Bah beaucoup, mais il y a un article qui a répondu à quelques questions comme ça, notamment sur le besoin de transparence. Hein, c'est ce besoin, on ne sait pas ce que les transnationales font. Les transnationales avec ces agents suisses font dans les pays où elles œuvrent. Donc c'est bien pour ça que cette initiative, elle essaie de réglementer ça. Parce qu'on
parle de transparence à quel niveau surtout?
Mais alors, justement, il y a de la transparence qu'il faudra mettre en place pour les agissements en termes des droits humains et de l'écologie. Hein, c'est les deux gros points de l'initiative. Puis en fait, on se rend compte aussi qu'il y a... Qu'en est-il aussi de la transparence économique, en fait, hein? Les choses sont liées, bien entendu.
Ouais,
hein? Elles sont liées. Mais il y a un article du Temps, déjà de février 2018, donc il y a une année, qui met en lumière le manque de transparence que l'État suisse peut revendiquer auprès des multinationales. Il n'y a pas de transparence sur ces agissements économiques dans les différents pays.
Ça serait plus alors au niveau de la publication de leurs comptes, des choses de ce type-là aussi.
Alors j'imagine...
Tous les flux financiers qu'ils ont avec les pays producteurs. En fait.
Alors les flux financiers, bien sûr. Je pense qu'il y a une ou deux transnationales dont on connaît un peu les comptes, mais c'est les comptes de gestion, c'est-à-dire qu'à la fin on dit on a ramassé ça puis on a gagné ça, mais sauf que en amont on ne sait pas quels ont été
les...
En amont, on ne sait pas du tout quels ont été les négoces et quels ont été aussi les enjeux avec les États dans lesquels ces transnationales œuvrent. Puis on sait qu'après il y a corruption, etc. derrière qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, on n'en sait rien là-dessus. Alors, je ne sais pas, vous voulez
sur cette transparence, pour moi, le problème, c'est toujours même, c'est ça en gros mots, c'est voilà, ouais. C'est une belle idée, tout le monde applaudit. Ouais. Mais bon, concrètement, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, quoi? Enfin, parce que transparence tout seul, c'est comme, je sais pas, c'est comme la convivialité, enfin, c'est comme tous les grands mots, quoi. On met un mot, puis tout le monde applaudit, mais enfin, c'est... Comment ça se traduit concrètement?
Alors, cet article, je crois qu'il ne répond pas à ça, parce qu'effectivement, ça part d'un des grands principes. L'idée, c'est de revendiquer cette transparence. Après, comment elle va être mise en œuvre, je ne peux pas vraiment te répondre. Mais le constat, en tout cas, comme quoi il n'y a pas de transparence,
c'est clair,
il est intéressant, et cet article, il peut déjà donner un peu l'état de la situation, il y a une année.
Mais par contre, ce que je pense que c'est intéressant, c'est quand les firmes publient leurs comptes, c'est qu'on connaît aussi leurs bénéfices, et que par rapport aux impôts qu'ils doivent verser aux pays producteurs, c'est vrai que c'est en tout cas... assuré qu'il y ait des comptes plus clairs, il semble que les pays d'origine pourraient lever beaucoup plus d'impôts. C'est un peu ça le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas déclarées au niveau des bénéfices, donc il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices, et ils payent très peu d'impôts pour les pays.
Et puis tout ça, c'est des fonctions finalement qui sont sur le dos de la population.
Ben voilà, c'est-à-dire c'est une perte complète, quoi.
Bon, ben, je propose qu'on écoute cet article.
La Suisse est un petit pays, mais elle joue un rôle central pour les pays en développement en tant que première place mondiale du négoce des matières premières. Selon les estimations, plus d'un tiers du pétrole brut vendu dans le monde est négocié par des sociétés helvétiques. Lorsqu'un négociant achète du pétrole ou des minerais à un gouvernement, il est impératif que ces transactions soient transparentes, car ces ressources naturelles appartiennent à la population. Les ventes de pétrole et de gaz sont les principales sources de recettes publiques d'États comme l'Angola ou le Nigeria. L'organisation que je préside, le Natural Resource Governance Institute, lutte contre la malédiction des ressources, soit le fait que les pays riches en ressources naturelles comptent parmi les plus pauvres de la planète, en raison d'une faible gouvernance et d'une corruption endémique. Accroître la transparence dans ce secteur opaque constitue l'un des premiers moyens d'y remédier. La transparence renforce l'obligation des gouvernements de rendre des comptes et permet de lutter contre la corruption. Mes propres recherches ont montré que les pays qui prennent de telles mesures peuvent, à long terme, tripler leurs revenus par habitant. Ces 10 dernières années, la transparence dans le secteur des matières premières a été améliorée grâce à une combinaison d'initiatives lancées par les pays d'origine des ressources naturelles, telles l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITI, et de lois édictées par les pays où les sociétés de ce secteur ont leur siège. Le Canada, l'Union européenne ainsi que la Norvège oblige les sociétés qui y sont domiciliées à publier les paiements effectués aux gouvernements du monde entier du fait de leurs activités extractives. Des centaines de firmes, comme BP, Shell et Total, ont publié le détail de tels paiements pour une somme totale de plus de 300 milliards de dollars. Ces informations contribuent à améliorer la gouvernance des pays producteurs. Les ventes entre États, normalement les compagnies pétrolières nationales et négociants internationaux, constituent la part la plus importante et la plus opaque des recettes publiques des pays producteurs liées aux matières premières. Or, jusqu'à présent, les lois sur la transparence des paiements ne s'appliquent pas aux opérations de négoce. Elles ne concernent que les revenus provenant des activités de production, impôts, licences, etc. La publication des paiements effectués par les négociants au gouvernement pour l'achat de matières premières est une nécessité. À ce jour, seul Trafigura a décidé de les publier sur une base volontaire. En 2016, le montant total des paiements effectués par le négociant suisse aux États s'élevait à 21,2 milliards de dollars, soit 40% de plus que ce que Shell a versé pour extraire son pétrole. L'exemple de Trafigura montre deux choses. D'une part, qu'il est tout à fait possible pour les négociants de publier de telles données, même si aucune autre société ne lui a emboîté le pas. D'autre part, 90% des versements de Trafigura concernent des pays qui n'ont pas adhéré à l'ITI. Cette dernière ne peut donc pas résoudre seule le défi posé par l'opacité des flux liés à la commercialisation de matières premières étatiques. Il est essentiel que les États, ou de telles sociétés ont leur siège, exigent qu'elles rendent publics les paiements effectués à des gouvernements pour l'achat de matières premières. La Suisse a l'opportunité d'agir. La Commission des affaires juridiques du Conseil national se prononcera bientôt sur des règles de transparence pour les sociétés suisses de matières premières. Les activités de négoce doivent être incluses dans cette loi. Ne pas couvrir de telles transactions reviendrait pour la Suisse à adopter une législation dépourvue d'effets concrets. La Suisse n'a rien à craindre d'une loi qui inclurait le négoce. D'autres places, comme la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, se sont déjà engagées à davantage de transparence dans ce domaine. Deuxième plus grand centre de négoce au monde, la Grande-Bretagne étudie comment elle pourrait intégrer ses opérations aux dispositions qui règlent déjà la transparence des paiements extractifs. Et fin janvier, l'OCDE a tenu une conférence dédiée à cette question. La Suisse ne serait pas isolée si elle agissait. D'autres pays suivraient son exemple.
Voilà,
ouais. Hein,
c'est un article de Daniel Kaufmann. Vous avez sûrement entendu cette phrase. Il dit « La Suisse n'a rien à craindre d'une loi qui inclurait le négoce ».
Ouais, elle n'a rien à craindre. Si elle n'a rien à craindre, pourquoi est-ce qu'on en est où on en est ? Si elle n'a rien à craindre...
Ils ont toujours peur que ces grandes firmes, ces grandes transnationales quittent la Suisse. Ils invoquent toujours cette question-là. Ils invoquent toujours cette raison-là. Comme quoi, l'économie suisse en souffrirait. Ouais. Parce qu'elle irait s'installer dans des pays où il n'y aurait pas de législation.
Oui, mais puis il y a une culture néolibérale qui part de l'idée qui détermine que chacun est libre parce qu'il doit s'autocontrôler. Et on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'une loi qui inclurait le négoce, c'est juste une bonne intention, ou bien est-ce que ça va vraiment être une arme, enfin, ou un outil pour exercer un vrai contrôle?
Parce que dans le cadre des multinationales, une arme, c'est pas trop dire. Quoi.
C'est pas trop
dire.
Non, mais c'est un peu intéressant de savoir que des législations qui existent dans d'autres pays, ou au niveau aussi de l'ONU, puissent être aussi appliquées dans un pays tel que la Suisse.
Parce qu'elles existent dans d'autres pays, à un niveau formel.
Oui, oui, il y en a un certain nombre. Et d'ailleurs, on peut le remarquer dans le prochain article que je vous propose, sous le titre « La Suisse prend du retard dans le contrôle de l'éthique des entreprises », Ivan Raja du Matin de Dimanche, il met en lumière en fait comment les entreprises qui travaillent l'or en Suisse, donc qui travaillent le 70% des extractions d'or de par le monde,
et raffinées en Suisse,
et travailler en Suisse dans l'industrie horlogère notamment, etc.
Non, parce que j'ai vu récemment qu'un certain nombre de firmes qui travaillent dans le commerce de l'or ont décrété, en tout cas, ont prétendu, et en tout cas, ils vont installer un processus de vérification de la provenance du métal, enfin, du produit de l'or, quoi. On sent qu'il y a est-ce que c'est une volonté de casser un petit peu tout ce qui va arriver avec cette
initiative,
est-ce que c'est ce qu'on appelle le greenwashing, etc.
Ouais. Voilà. C'est mon question parce que dans cet article, il en parle, mais tu verras qu'après, il... C'est un peu soft et puis il émet quelques petits doutes.
Ah voilà. Bon bah écoute, proposez-vous de cet article.
On y va.
La Suisse prend du retard dans le contrôle de l'éthique des entreprises. Droits humains. Alors qu'à l'étranger, les pays sont de plus en plus nombreux à adopter un contrôle de la responsabilité sociale des sociétés, la Suisse tergiverse. Le peuple pourrait se prononcer dans un an. Le Canada a annoncé le 17 janvier la création d'un poste d'ombudsman indépendant pour la responsabilité sociale des entreprises. Il aura pour mandat d'analyser des allégations de violation des droits de la personne causées par les activités d'une entreprise canadienne à l'étranger, avec budget d'enquête et liberté d'agir, qu'il y ait eu un dépôt de plainte ou non. Si une entreprise refuse de coopérer, on pourra lui retirer certaines aides, comme l'appui consulaire ou le soutien financier d'exportation, souligne Bonnie Campbell du département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Experte reconnue en matière de responsabilité sociale des entreprises, Bonnie Campbell est spécialiste de dossiers liés à l'Afrique et interviendra à ce titre lors du colloque sur le commerce de l'or qui se tiendra ce mercredi à l'Université de Lausanne, sous-titré « La Suisse sous pression ». Selon elle, les mesures volontaires des entreprises ne suffisent plus et l'opinion publique ne s'en contente plus. La thématique tombe à pic, alors qu'un rapport de l'ONG Human Rights Watch épingle plusieurs maisons d'horlogerie et de joaillerie, dont les Suisses Rolex et Chopard. Celles-ci ne vérifieraient pas de façon suffisamment rigoureuse leur approvisionnement en or et en diamants. La Suisse, où est traité 70% de l'or extrait dans le monde, est en tête de liste des pays pointés du doigt sur ces questions de traçabilité. 4 des 10 plus grandes raffineries d'or au monde, Valcambi, PAMP, Argor et Raouus émettent alors, en effet, leur siège et leurs activités en Suisse. Conseil fédéral passif. Or, Berne refuse toujours de légiférer sur le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, l'initiative populaire pour des multinationales responsables qui a récolté 120 000 signatures devrait passer en votation dans un an.
Le Conseil fédéral a proposé de la rejeter sans même se fendre d'un contre-projet, déplore Béatrix Nizer, coordinatrice romande de l'initiative. Les arguments sont toujours les mêmes. L'autocontrôle serait suffisant et il serait dangereux pour la Suisse de faire cavalier seul ou d'exposer ses sociétés à de possibles plaintes pour des dommages commis à l'étranger par les filiales. Avancer à l'étranger. Or, loin de faire cavalier seul, Berne se laisse distancer. Le Canada aura son ombudsman, on l'a vu. Mais la France vient d'adopter l'été dernier une loi sur le devoir de vigilance pour les entreprises. Les Pays-Bas sont en train de mettre sous toit un texte similaire et l'Union européenne avance à grands pas dans ce sens. Même les États-Unis sont mieux dotés. Avec la loi Dodd-Frank, voulue par l'ancien locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama, et qui expose les sociétés à de lourdes sanctions en cas de non-respect de la traçabilité des matériaux et des conditions de travail des filiales à l'étranger. Cela ne concerne pas que l'or ou les métaux précieux, rappelle Béatrix Nizer, mais aussi d'autres industries, comme la filière du chocolat, avec des exigences strictes pour exclure le travail abusif des enfants dans les plantations de cacao. Toutefois, le président américain Donald Trump a mis la loi Dodd-Frank dans son collimateur, ne faisant pas de mystère de sa volonté de l'abroger. La balle est clairement dans le camp des pays du Nord, rappelle Bonnie Campbell. Nous héritons de la politique des années 80 et 90 qui a vu la réduction de la souveraineté des États sur les sociétés qui exploitent ces ressources, en Amérique latine et en Afrique notamment, avec, pour conséquence, la fuite des capitaux et la prise de contrôle, dans de nombreux cas, des activités minières par des entreprises basées à l'étranger. Ces sociétés devenaient seuls propriétaires et opérateurs, le rôle des États étant confiné à celui de régulateur, mais à partir d'une position très affaiblie, selon la philosophie du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Aujourd'hui, l'impact sur l'environnement, la collusion avec le financement de conflits armés, le flou des acheminements et le non-respect des droits de la personne ont changé la donne. Et ce sont les pays du Sud qui ont fait les premiers pas, pointe-t-elle. Au sommet d'Addis Abeba de 2008, et lors de l'établissement de la vision minière africaine par l'Union africaine en 2009, la nécessité du rôle de l'État en tant que responsable de la gestion de ses ressources a été mise en avant. Bon nombre d'entreprises responsables ne craignent pas d'instauration de régulations plus précises, dont les contrôles externes, observe par ailleurs Bonnie Campbell. Un constat que partage Béatrix Nizer. De grandes marques présentes en Suisse sont favorables à un devoir de diligence tel que prescrit par l'initiative. Dans le commerce de l'or, Metalor et PAMP, notamment, ont instauré des processus de vérification de la provenance exacte du métal. De grandes marques présentes en Suisse sont favorables à un devoir de diligence tel que prescrit par l'initiative. Dans le commerce de l'or, Metalor et PAMP, notamment, ont instauré des processus de vérification de la provenance exacte du métal. Manque un blanc-seing externe qui validerait ces affirmations aux yeux des instances gouvernantes et de l'opinion publique. RC contesté en Suisse. Le texte de l'initiative s'articule sur deux axes. Le premier demande un devoir de diligence sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, détaille Béatrix Nizer. Le second préconise l'instauration d'une responsabilité civile des entreprises basées en Suisse qui permettrait aux victimes, y compris à l'étranger, d'actionner la justice. Mais les sociétés auraient la possibilité de faire preuve de leur bonne foi en démontrant avoir tout entrepris pour éviter les violations commises par leurs filiales. Ce mécanisme se fonde sur le modèle de la responsabilité de l'employeur du droit suisse. Il n'est pas du goût des opposants, selon qui cette variance du renversement du fardeau de la preuve instaurerait le postulat que les entreprises sont coupables jusqu'à preuve du contraire. Économie Suisse dénonce pour sa part le côté irréaliste de l'initiative. Les grandes multinationales sous-traitant avec des centaines, voire des milliers de filiales, ce qui rend toute vérification impossible. Cet aspect de la responsabilité civile est la principale pierre d'achoppement. En novembre, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États rédigeait un contre-projet indirect à l'initiative, en allégeant le volet de la responsabilité civile, qui ne pourrait être actionné que lors de cas graves et avérés, précise son président Robert Kramer, vers Genevois. La commission sœur du Conseil national l'a, quant à elle, rejetée. Nous verrons décider mi-janvier d'attendre le développement de la révision de la loi sur les sociétés anonymes pour déterminer si notre contre-projet doit être maintenu tel quel ou être inclus dans celle-ci, ajoute Robert Kramer. Cela reportera la décision en juin, en septembre peut-être. Que Berne se rassure, la Suisse n'est pas prête d'endosser le rôle du cavalier solitaire.
Vous l'avez entendu, il parle de l'or, mais en même temps, il y a toutes sortes d'autres matières premières. Il y a le cacao, il y a le pétrole, il y a...
Toi, dans tout ce qui est alimentation, on sait qu'en Suisse, en tout cas à Genève, est concentré un nombre incroyable de firmes qui font du commerce, justement, au niveau de l'alimentation. Aussi bien, alors savoir ce qu'ils font, j'ai entendu parler qu'au niveau du chiffre d'affaires, ça représente 5 à 6% du PIB suisse, enfin tout ce qui concerne le négoce des matières premières de manière générale.
Combien d'entreprises sont concernées par les matières premières?
C'est bien ça le problème, parce que bon, là on se rassure un petit peu avec ces trucs et tout, mais enfin il ne faut quand même pas oublier la réalité. Les multinationales, alors quand on parle de l'autocontrôle, tous ces trucs-là, qu'on les met en amont en disant « mais oui, ça peut fonctionner », car on dit « on a des lois », mais bon, le problème de l'application des lois. Il y a quand même une chose dont on doit prendre conscience, c'est disons, l'importance du fléau. Il y a 2% en gros des multinationales en Suisse qui sont et que eux disent qu'on peut qualifier de responsable.
Tu tiens ça d'où?
Voilà, c'est un article du matin et dimanche qui est daté du de mai 2018. Et puis c'est un article en fait qui est publié par le SECO et qui d'après ses statistiques, ils disent que pour eux, il y a 2% des multinationales suisses responsables.
Puis le SECO, c'est pas vraiment une ONG de gauche, hein.
Je crois pas, non. Hein? Non, c'est alors au plus c'est un organisme quand même réputé officiel.
Ouais.
Mais une fois de plus, c'est eux qui qualifient de responsables. On peut encore suspecter, une forme d'allégeance ou disons de sympathie, on va dire. Voilà.
Mais le constat est amer.
Il y a des standards au niveau européen qui existent. Alors, en relation avec ces standards européens, qui comparent peut-être ce qui se déroule dans d'autres pays, qui suivent peut-être plus ces standards que la Suisse. On sait qu'elle n'est pas très bonne élève dans ce domaine.
Alors voilà. Ouais. Moi je propose que pour se faire une idée du phénomène, parce que moi-même j'ai de la peine à comprendre, j'ai lu ce truc deux fois, moi je propose qu'on écoute cet article, quoi.
Seuls 2% des multinationales suisses sont responsables. Selon le SECO, une écrasante majorité des entreprises ne respectent pas les standards OCDE pour l'environnement ou les droits de l'homme. Le chiffre révèle d'une lumière crue la réalité de la responsabilité sociétale des multinationales. Dans un rapport publié par le SECO et la DDC, on découvre que seuls 2% des 500 plus grandes entreprises suisses appliquent réellement les principes directeurs de l'OCDE. De quoi s'agit-il? Des recommandations que les gouvernements des pays membres adressent aux multinationales afin de favoriser une conduite raisonnable dans les différents domaines, comme les droits de l'homme, l'environnement ou la lutte contre la corruption. La situation n'est pas bien meilleure concernant les principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'étude aboutit à un faible taux, de 5%. Ces chiffres sont décevants, regrette Laurent Mathilde, responsable d'entreprises et droits humains au sein de l'ONG Alliance Sud. La Suisse refuse de légiférer, mais on voit bien ici la limite des mesures volontaires. L'autocontrôle, c'est pourtant la piste suivie par le Conseil fédéral qui craint que les règles contraignantes affaiblissent l'intérêt de la Suisse ou plusieurs sociétés internationales en leur siège. Le rapport fait aussi écho à l'initiative pour des multinationales responsables, actuellement traitée au Parlement. Portée par une centaine d'organisations, le texte demande que les entreprises soient obligées de tenir compte des droits humains et de l'environnement en Suisse, mais également hors des frontières, là où elles exercent leurs activités. Face à un texte qui a de bonnes chances de convaincre la population, qui peut rester indifférent à une pollution au mercure ou au travail des enfants? Les deux chambres tentent de trouver le contre-projet capable de respecter le but de l'initiative, tout en évitant les travers potentiellement dommageables pour l'économie. La solution pourrait venir du Conseil national, un contre-projet sera discuté le 14 juin, lors de la dernière semaine de session. Il se base sur une modification du droit de la société anonyme. Un devoir de diligence y est introduit, mais sans bureaucratie inutile. les PME et les sociétés qui encourent un risque minimal seraient épargnées. Pour toutes les autres entreprises, les engagements seraient limités au minimum. En commission, seule une minorité composée du PLR et de l'UDC s'y est opposée. Et encore, certains élus de ces deux partis ont soutenu le projet. Reste à savoir si le plénum suit. En ce sens, le rapport du SECO tombe à point nommé pour les partisans du contre-projet. Ça montre qu'il y a une nécessité incontestée d'agir, réagit Lisa Mazzone, Les Verts Genève. Les initiants, quant à eux, sont prêts à retirer leur texte si un contre-projet efficace est approuvé par le Parlement.
Au terme de ce billet, nous remercions les lectrices et lecteurs Nicole de Montmolin, Nina Richard et Martin Chapuis pour leur contribution. Nous remercions également l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre l'émission. À la conception, à la réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion. À la semaine prochaine. Yeah.